France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue face à une vie spectaculaire, la vie de Niki de Saint-Phalle, l'artiste phare de ces dernières décennies. Peintre, sculptrice, elle est devenue célèbre grâce à ses tirs qui arrachaient à des tableaux blancs de la couleur et du mouvement. Célèbre aussi grâce à ses nanas, sculptures de femmes voluptueuses et colorées, incarnant la puissance féminine. Victime d'inceste dans l'adolescence, internée dans les années 50, elle a trouvé à l'hôpital psychiatrique sa vocation artistique, développant une pratique proche de l'art brut. Elle a réalisé des œuvres fabuleuse et monumentale, comme le Jardin des Tarots avec son mari, l'artiste Jean Tingly, le Golem à Jérusalem ou la Grotte à Hanovre, entre autres splendeurs. Elle a écrit 3 livres autobiographiques, dont le dernier, Mon Secret, publié en 1994 et dédié à sa fille, brise le silence sur l'inceste subi. Elle a réalisé un film inquiétant et merveilleux, Un rêve plus long que la nuit en 1976, récemment restauré. Elle est l'objet de 2 expositions en ce moment, Niki de Saint-Phalle, Le bestiaire magique à Caumont, centre d'art à Aix-en-Provence, jusqu'au 5 octobre 2025, et Niki de Saint-Phalle, Jean Tingly et Pontus-Ultène, au Grand Palais jusqu'au 4 janvier 2026. Pour parler de Niki de Saint-Phalle, je suis en compagnie de Céline Salette, comédienne et réalisatrice qui lui a consacré le long métrage Niki en 2024, la conservatrice du patrimoine spécialiste des artistes femmes, Camille Moreno, cofondatrice de l'association Aware, qui a consacré en 2014 une rétrospective à l'œuvre de Niki de Saint-Phalle au Grand Palais, et le journaliste et critique de cinéma Philippe Azoury. Bonjour, bonjour Céline Salette. Vous êtes avec nous à distance. Merci beaucoup de participer à cette émission.
Merci à vous de votre invitation.
Avec plaisir. Bonjour Camille Moreno, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes avec nous par téléphone.
Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
Et bonjour Philippe Azoury, avec moi, dans le studio des Midis de Culture.
Bonjour Élise.
Niki de Saint-Phalle a été incarnée à l'écran par Charlotte Lebon dans le film Niki, signé Céline Salette. Donc, et on entend pour commencer un extrait de ce film.
Moi, je voulais... Jeanne d'Arc, je voulais, ou Georges Sand, ou Napoléon avec un jupon. Je voulais que ma vie soit difficile et excitant, et je voulais que ce soit grand.
Ça va être grand ta vie, Niki.
Donc qu'est-ce que t'en sais?
J'en sais. Ça se voit dans ton travail. Faut pas que t'aies peur, faut que tu mettes le paquet. Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu. L'art, c'est la nouvelle arme du monde. On est les nouveaux terroristes.
Niki de Céline Salette, et on entend ici Niki de Saint-Phalle, incarnée par Charlotte Lebon, évoquer ses ambitions avec l'artiste Jean Tingly, avec qui elle aura une grande histoire amoureuse et artistique. Céline Salette, vous qui avez consacré un long métrage extrêmement réussi, très juste, très émouvant et très incarné à Niki de Saint-Phalle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de cette femme au point d'avoir envie de déployer l'énergie que demande la réalisation d'un long métrage ?
Ce qui est très frappant chez elle, c'est sa puissance. Dans son parcours, en fait, dans ces 10 années que parcourt le film, il y a évidemment la naissance qu'elle elle se fait naître comme artiste. Et je trouvais beau de sentir comme il y a des choses qui existent dans nos vies à nous, comme personnes, qui sont là en germe. Parce qu'en fait, ce film, il parle d'elle, bien sûr, et il parle aussi de comment on peut devenir soi, nous-mêmes y compris, de quelle force on peut aller puiser dans son exemple. Je trouve que c'est ce qui est beau dans le cinéma, c'est qu'il peut avoir valeur d'exemple, quoi. Et puis, ce que je trouve hyper puissant dans son parcours, c'est qu'il est héroïque. Dans sa découverte de l'inceste, dans sa résilience, dans comment elle dans ce qu'elle fait, dans quels sont les actes qu'elle pose, ce qu'elle choisit dans sa séparation, pour aller traverser son enfer et puis en ressortir avec la lumière qu'elle apporte au monde avec son art. c'est ce qui m'a le plus frappé dans son parcours. À la suite de ça, elle a émergé comme elle dans toute sa puissance, comme le phénix qu'elle est. Et puis toute sa vie, cette chose re-arrivera. Elle devra se refaire naître comme nous tous. Elle mûra de nouveau, encore et encore. Mais comment elle vint, comment elle triomphe, c'est l'objet du film. C'est absolument fascinant.
Elle nous transmet sa puissance à travers ses multiples renaissances, Niki de Saint-Phalle. Camille Morino, spécialiste des femmes dans l'histoire de l'art, quelle place occupe Niki de Saint-Phalle dans votre panthéon d'artistes femmes? Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec le côté phénix que lui trouve Céline Salette?
Oui, je suis d'accord, évidemment. Enfin, ceci étant dit, beaucoup d'artistes sont des phénix, d'ailleurs les hommes et les femmes. Hein. Les femmes, elles ont dû vivre et vaincre plus de résistance, surtout à l'époque de Niki de Saint-Phalle, qui commence à être artiste dans les années 50. Et il faut souligner qu'elle est presque la seule, en fait, dans ces années-là, peut-être avec Joan Mitchell, qui est d'ailleurs représenté très justement dans le film, qui est assez dur avec Niki de Saint-Phalle.
Alors, on a perdu Camille Morino, je suis désolée, mais elle était en train de parler d'une scène du film que vous avez réalisé, Céline Salette, Niki, et cette scène, elle m'a également beaucoup marquée. On y voit justement Joan Mitchell dire à Niki de Saint-Phalle, toi tu es une femme d'écrivain, toi tu es une femme au foyer qui a une passion pour la peinture et qui en fait a un passe-temps, et justement, je trouve que cette scène là dit beaucoup de choses sur le destin de cette femme et sur ce mouvement que vous racontez dans votre film, c'est-à-dire le moment où Niki de Saint-Phalle prend son envol, et il y a aussi une forme de révolte sur ce que lui dit Joan Mitchell, Céline Salette. On n'a pas Céline Salette. Eh bien, Philippe Azoury.
Bonjour.
Ah, est-ce qu'on a le retour de Céline Salette à l'antenne? Non plus. Philippe Azoury, on va être en tête à tête, en duo pour parler de... Alors, est-ce que vous voyez de quelle scène je parle, Joan Mitchell?
Oui, bien sûr, oui.
Qu'est-ce que vous pensez justement de ce que ça dit de ce combat de phénix, ce combat de renaissance mené par Niki de Saint-Phalle pour sortir... Alors, évidemment, Céline Salette parlait de l'inceste qu'elle a subi. Ensuite, il y a un mariage qui n'est pas un mariage malheureux, hein, qui est un mariage semblable à beaucoup de mariages, c'est-à-dire avec du respect, mais aussi des crise, et puis ensuite la rencontre avec Jean Tinguely. Est-ce que vous pensez qu'elle, comme un phénix, elle a dû se réinventer et se renaître plusieurs fois?
Il y avait dans l'intervention précédente de Céline Salette, avant qu'on perde la liaison, Céline disait comment elle se fait naître comme artiste. Et je profite du coup d'avoir un peu de temps, puisque pour l'instant on rétablit, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans le cheminement, dans le film que Céline Salette a consacré à Niki de Saint-Phalle, Niki, dans le cheminement de cette naissance de l'artiste. Au début, on voit qu'elle est en ménage, comme on disait à l'époque, mais avec Harry Matthews, et c'est pas un méchant mari, c'est un mari plutôt aimant, compréhensif. Elle est comédienne, elle est mannequin. On peut penser qu'elle souffre en tant que sujet, parce que c'est toujours compliqué, les coordonnées selon lesquelles on se positionne comme acteur, actrice, c'est-à-dire on est soi-même, mais à travers les autres. Et pourtant, malgré ce, et sans qu'on en ait la raison donnée, elle atterrit en 52 dans la réalité à l'hôpital psychiatrique à Nice.
Alors là, elle décompense en fait complètement.
Elle décompense complètement.
Il se produit plusieurs événements, c'est-à-dire qu'il y a cet inceste qui s'est produit dans son adolescence.
Mais c'est ça qui est fabuleux.
Qu'elle a dans complètement refoulé, ouais. Qui revient quand elle voit, notamment quand elle repense à ces serpents dans l'herbe qu'elle avait vus au moment de l'agression subie. Absolument. Et puis ensuite, elle reçoit aussi un courrier de son père. Il y a des scènes très fortes qui sont représentées dans le film, notamment sur l'incapacité du corps médical à entendre chez cette femme le cri qu'elle pousse et l'accusation qu'elle porte contre son père, qui s'accuse lui-même, et la preuve disparaît. Elle est détruite par le médecin.
Le docteur Cossa, ouais. Il y a deux choses justement là. je trouve, qui sont intéressantes dans le traitement qu'on a donné à Céline Salette, c'est que d'abord, on ne comprend pas donc pourquoi... Enfin, il n'y a pas de raison réellement tangible à cette décompensation. En tout cas, elles ne nous sont pas données. Mais par contre, donc c'est avant l'arrivée... C'est exactement d'ailleurs l'année de l'arrivée des neuroleptiques, c'est 52, mais ils n'arrivent pas à Nice. Et elle est traitée... c'était quand même le traitement de choc de l'époque, c'est-à-dire insuline plus électrochoc. Et normalement, on est à peu près un légume à ce moment-là. Et elle résiste. Et d'ailleurs, le docteur Cossa lui dit, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que non seulement elle résiste, et naît une envie, c'est l'artiste qui naît, c'est-à-dire naît une envie de transmettre, de communiquer quelque chose à travers, elle veut de la colle, elle veut des couleurs. Au début, on lui interdit, finalement, on lui autorise, et au fur et à mesure, elle commence comme ça à s'exprimer. Et là, reviennent d'abord les images, revient le refoulé, donc l'inceste, et l'inceste donc n'arrive que finalement au bout d'un quart d'heure après l'artiste, c'est-à-dire l'art est premier avant la cause, et c'est la scène, c'est toute la complexité de la scène où le docteur Cossa, je sais plus s'il déchire, oui, il brûle hein, la lettre, je veux pas dire de,
ouais, il la brûle,
ouais, c'est ça, oui, brûle la lettre. Bon, on peut considérer que c'est d'un point de vue thérapeutique une erreur. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, ça, évidemment, enfin, c'est indiscutable. On peut pas, enfin, ça protège le père. Ça, on ne peut plus rien faire d'un point de vue légal en l'absence même de cette preuve, parce que cette lettre est une lettre d'aveu. Hein, le père avoue. Et moi, je regardais quand même cette scène en me disant, toute ma vie, enfin, depuis que j'avais pu lire Mon secret, donc c'est-à-dire, je savais. Ce qui allait éclairer, donc, justement,
l'autobiographie,
qui est une lettre à sa fille, en fait.
Voilà. Ouais, voilà. Et 1994.
Publié en 94, réédité il y a deux ans, très très bien, d'ailleurs, il y a un an et demi ou deux ans, par les éditions de La Différence et les éditions des Femmes. Et je me disais, mais pourquoi ce psychiatre fait ça? Et les raisons qu'il invoque, en plus, sont assez catastrophiques, puisqu'il dit qu'un homme élevé dans la religion ne peut pas avoir fait ça à sa fille. Et en même temps, on s'aperçoit, il y a peut-être une raison thérapeutique à ça, mais ça aurait pu avoir, le fait de brûler cette lettre aurait pu avoir des incidences non seulement légales, mais même sur Nikki complètement désastreuses. Et ça a une incidence, c'est que ça l'empêche de rester uniquement dans une position de victime. Et ça l'amène directement, mais je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient chez le docteur Cossa, hein, ça l'amène à aller finalement dans le chemin qu'elle s'est elle-même choisi et qu'elle a elle-même dessiné depuis l'hôpital psychiatrique, qui est celui de l'artiste.
Ça l'amène, effectivement, ça la met déjà dans une très grande colère qui n'arrive pas tout de suite, mais qui arrive ensuite, que vous représentez Céline Salette à l'écran. Est-ce que vous avez pu entendre la réaction de Philippe Azoury sur justement ces différentes étapes qui sont bien représentées dans le film, qui est découpé en chapitres d'ailleurs, chapitres avec des titres. Céline Salette.
Oui, l'idée c'était de montrer le parcours, mais c'est vrai que en fait on fait toujours. Nous le film s'appuie sur l'autobiographie qu'elle a écrit qui s'appelle Harry et moi les années de famille. Donc il y a pas d'invention dans le film à part pour nous aider cette hypothèse qu'elle planque un couteau sous le lit quand elle est petite pour nous aider à comprendre ce geste qu'elle fait adulte. Parce qu'en fait pour moi ce film parle pas de folie en fait. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que les traumas liés à l'inceste sont communs. Donc, en fait, ce qu'elle traverse est commun. C'est une conséquence normale de ce genre de trauma. Mais on le dit pas assez. On pense que... Voilà. Bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que, oui, il faut interpréter, se demander pourquoi. Avec Cossa, on a fait l'hypothèse...
Le psychiatre.
Ouais, on a fait l'hypothèse. Enfin, moi, j'ai fait l'hypothèse qu'il avait peut-être eu le père au téléphone, puisque il s'inquiète probablement dans sa lettre le père de l'état de santé de Nikki, de sa santé mentale. Et j'ai fait l'hypothèse qu'en l'ayant eu au téléphone, il y ait une espèce d'adhésion au souci que prenait le père de sa fille, ou en tout cas d'adhésion à l'homme, quoi, qui avait donc une espèce de collusion ou de complicité implicite, quoi, inconsciente même, qui faisait qu'il pouvait pas croire au fait qu'il ait été un incesteur. C'était une hypothèse de jeu. Pour jouer, de toute façon, il faut faire des hypothèses. Ça nous a aidé à fabriquer cette scène. Mais c'est vrai que elle a raconté beaucoup de choses, Nikki. Et c'est un grand don de sa part. Pour moi, d'ailleurs, ses autobiographies sont parmi ses œuvres les plus remarquables, même si elles sont fermées dans des livres. Je trouve que le travail de vérité qu'elle tâche de faire, y compris dans Trace, avec la façon dont elle cherche quelle place le souvenir tient dans une vie, c'est-à-dire est-ce qu'il est réel, comment on interprète ce qu'on a vécu, avec évidemment la complicité de son frère dans Trace et de son cousin, mais aussi dans Harry et moi. Je veux dire, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle fait parler Harry dans le livre, qui donne sa version, c'est écrit en rouge. Il contresigne le livre, il intervient parce qu'il est aussi un témoin de sa vie et qu'il a aussi sa propre version des faits. Je trouve ça absolument remarquable. J'ai jamais vu ça ailleurs, et je trouve ça d'une puissance inouïe.
Camille Morino, comment est-ce que vous voyez les différentes étapes qui jalonnent la vie de Niki de Saint-Phalle, et notamment, eh bien, c'est son entrée dans l'art, évidemment l'inceste, et puis le passage en hôpital psychiatrique, et ensuite cette sortie, cette confrontation aux autres artistes. Vous parliez de John Mitchell, il y en a d'autres, hein, Camille Morino.
Alors, moi, j'ai peut-être une vision un peu différente de son entrée dans l'art. Je trouve le film magnifique, mais on va parler aussi d'Un rêve plus long de la nuit que la nuit. Niki, c'est une femme qui s'exprime beaucoup oralement et qui écrit beaucoup, effectivement. C'est une femme qui est plongée dans l'art de son temps, qui connaît très bien ce qui se passe aux États-Unis, Jasper Jones, tout le mouvement proto-pop, qui connaît aussi les nouveaux réalistes, qui connaît l'art brut. Et en fait, elle se nourrit, à mon avis, au moins autant de ce qui se passe autour d'elle, de l'art des cathédrales, de Gaudi, qui est un artiste qui la fascine, que de son histoire personnelle, qu'elle va au fond sublimer, comme beaucoup d'artistes. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'elle va révéler assez tard dans sa vie ce traumatisme. C'est pour laisser place à la compréhension, l'interprétation de son travail et aux étapes qui sont très liées aux étapes de l'art de son temps, c'est-à-dire l'apparition des nouveaux réalistes, l'apparition du mouvement pop, l'invention de la performance. Elle fait partie des gens qui ont inventé la performance, Niki de Saint-Phalle. Donc, elle s'inscrit dans des inventions, dans des avant-gardes qui vont bien au-delà de son histoire personnelle. Et je le dis parce que souvent, on a tendance à réduire un tout petit peu les artistes femmes à leur vie. On appelle ça le trope biographique. Alors qu'au fond, elles sont comme des artistes hommes, d'abord immergées dans l'art de leur temps. Et pour Niki de Saint-Phalle, vraiment à l'avant-garde des inventions de son temps.
L'une des rencontres qui va marquer un tournant dans sa vie, mais aussi dans sa carrière, et vous avez raison, c'est bien sûr évidemment important de le préciser, c'est celle qu'elle fait, Niki de Saint-Phalle, avec le sculpteur Jean Tinguely.
Jean aimait bien mon côté féministe, et moi j'aimais bien son côté macho, et on était un très bon couple là-dedans. Et Jean m'avait beaucoup protégé dans ma vie, plus que je n'imaginais, jusqu'à sa mort. On ne vivait plus du tout ensemble. Comme tu sais, on se voyait tout le temps, on se faxait tout le temps, on se téléphonait. Il y avait un courant entre nous, il y avait quand même un espèce de miracle. Il y avait quelque chose qui se passait, inexplicable, parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes goûts. Mais il y avait quelque chose de magique, une électricité qui se passait, qu'on ne pouvait pas être ensemble sans avoir des idées, s'amuser, commencer à dessiner. Il y avait... qui a transcendé tous les liens. On était quand même, on peut dire, des âmes sœurs, quelque part. C'était sur un niveau plus... C'était très difficile pour les autres gens qui nous ont aimés. Parce que les hommes dans ma vie me disaient « Tu es la femme de Jean ». J'étais toujours pour eux la femme de Jean. Ils avaient raison.
Camille Morino, comment a fonctionné leur duo d'artistes Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle?
Elle le résume très bien elle-même, avec beaucoup d'esprit et d'humour. Ils se sont connus donc assez jeunes. Ils ont eu une grande histoire d'amour, mais qui, au fond, n'a pas duré très longtemps. Enfin, je veux dire, le couple réel Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle est assez court. Lui va assez vite avoir d'autres maîtresses et une autre femme, elle aussi. Mais le couple d'artistes qui forment, donc les âmes sœurs, comme elle le décrit très bien, lui va rester extrêmement longtemps, jusqu'à la mort de Jean Tinguely. Ils vont littéralement travailler ensemble une grande partie de leur vie, faire des œuvres communes, des œuvres notamment publiques. Et dans ces œuvres, ce qui est absolument génial, je pense, et presque unique, c'est que Jean Tinguely va bien souvent être l'assistant de Niki de Saint-Phalle. Il va être la personne qui ne signe pas les œuvres. Je pense à beaucoup d'œuvres publiques qu'ils ont réalisées ensemble, dont Le Jardin des Tarots, parce que Jean fait les structures invisibles en métal de cette grande œuvre publique à une heure de Rome. Et donc, ce couple d'artistes va fonctionner magnifiquement. Ils vont se compléter, ils vont s'admirer, ils vont se mettre en valeur l'un et l'autre. Et ce qui est unique dans les années 70, 80, 90, c'est que la femme est l'unique de l'homme. Et ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire dans le monde de l'art de ces années-là.
Céline Salette, l'une des vidéos dans l'exposition justement Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely et Pontu Sultaine à Paris, on voit Niki de Saint-Phalle, on parlait de Jean Tinguely, mais on la voit, elle, s'exprimer sur un bouillonnement intérieur. Elle dit « J'ai envie de créer quelque chose qui parle du présent, qui parle des bombes, qui parle de tout ce qui explose, de la fin du monde » et elle termine en criant « Bang !» et on voit l'énergie qui dialogue avec celle de Jean Tinguely et ses machines qui tournent, etc. Et en même temps, on sent que, oui, il est là, il est à ses côtés, et il dialogue ensemble, il crée ensemble, mais en même temps, elle, on sent que son énergie, que sa volonté créatrice est absolument indomptable et presque incontrôlable. Céline Salette, est-ce que vous aviez eu envie de la capturer aussi dans le film que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez senti quand vous regardez ses œuvres, quand vous regardez les vidéos d'elle aussi?
Oui, bien sûr. Ben, il y a chez elle, et c'est aussi le parcours qui est décrit dans le film, elle passe du silence au cri de révolte, au cri de rage. Et c'est une libération physique, vocale. En fait, elle dit aussi, quand elle tirait, que ces états de transe dans lesquels elle était, puisque évidemment ses performances étaient sonores, elle parlait, elle criait. Au début, pas, mais je veux dire, c'est une chose qui est advenue. Elle a fait ses tirs pendant 2 ans et elle dit que ses états de transe l'ont empêchée d'être malade. C'est-à-dire qu'au fond, elle avait, pendant cette période-là, elle avait plus mal nulle part. Et par la suite, dans son travail, elle a pensé retourner au tir pour de nouveau sentir cette libération physique par la transe, par l'art psychomagique qu'a théorisé Jodorowsky. Mais en fait, elle a inventé cette chose de performance dont parlait Camille, et puis il y avait déjà des performances, mais je veux dire, elle l'a mis en œuvre de façon absolument magistrale, et ça a eu un effet sur elle magique, puissant, très puissant.
Camille Morino, ce qui est intéressant aussi dans l'œuvre de Niki de Saint-Phalle, c'est qu'on voit cette énergie, on voit d'un côté en fait la joie, la couleur, la beauté. Elle parle beaucoup de beauté dans ses lettres, dans les textes, dans les vidéos. Elle dit « je veux faire de la beauté » et en même temps elle est traversée par une énergie plus noire, celle des tirs, celle de certaines sculptures qu'on peut voir à l'exposition parisienne, l'accouchement rose, avec ce corps de femme très tourmenté aussi. Comment est-ce qu'on peut définir et expliquer cette tension chez elle entre la rondeur, la couleur, la joie et une forme de brutalité, Camille Morino?
Cette brutalité, au fond, c'est quand elle est apparue et associée à Niki de Saint-Phalle, c'était extraordinaire parce que c'était une femme qui domptait la brutalité, qui prenait la carabine, et de telle sorte que son art, il peut être considéré comme un art proto-féministe. Elle commence à être féministe avant que le mot féministe existe, avant qu'il soit d'ailleurs portée en exergue aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Et Niki de Saint-Phalle va incarner cette puissance de la femme. Elle va la représenter d'abord dans des tableaux un peu en 3 dimensions à partir d'objets en plastique qu'on voit apparaître dans le film. Elle va représenter des mariées, des accouchées, des prostituées. Elle va travailler donc ces stéréotypes féminins. Ensuite, elle va basculer d'ailleurs dans le cinéma, dans des films extraordinaires dont Le rêve plus long que la nuit et Daddy, où elle va parler de l'inceste, mais aussi du patriarcat, de la puissance potentielle des femmes. Donc, elle va vraiment s'imposer comme une femme qui réfléchit au rôle de la femme dans la société, qui le subvertit, qui fait vraiment une révolution visuelle. Et c'est ce qui n'a pas forcément été compris au moment où elle vit, mais ce qui est vraiment reconnu aujourd'hui avec ses multiples expositions et ses hommages, c'est son rôle comme artiste féministe.
Philippe Azoury, j'ai été frappée dans l'exposition à Paris par l'immense modernité de son œuvre, dont parlait à l'instant. C'est la sculpture, par exemple, qu'elle présente au Moderna Museet de Stockholm. Ça s'appelle « Elle, une cathédrale ». C'est en 1966. C'est une nana gigantesque à l'intérieur géante, monumentale. Et on rentre, le public rentre à l'intérieur par le vagin. Et on est deux ans avant mai 68. Moi, ça m'a sidéré, ce geste.
Elle est pénétrée, ou elle-même disait, je crois qu'elle est baisée une fois par jour, mais par la continuité des visiteurs et des visiteuses. Enfin, c'est vraiment là, on rentre ou on re-rentre, enfin, on refait l'opération inverse d'un accouchement. Enfin, on retourne dans le vagin. C'est effectivement incroyable de liberté, d'affirmation. Enfin, à cet endroit-là, c'est gigantesque, mais pas simplement en termes de dimension. C'est gigantesque parce que ça pose comme acte, quoi. Enfin, c'est littéralement éblouissant.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, Philippe Azoury, en tant que spectateur face aux œuvres qui sont exposées, où on a vraiment une impression de naviguer entre deux eaux, et on parlera plus tard de son film Un rêve plus long que la nuit, mais c'est pareil, on passe des ténèbres à la lumière assez vite et assez radicalement avec Niki de Saint-Phalle.
C'est très très beau au Grand Palais. J'ai pas pu, moi je suis resté à Paris tout l'été, j'ai pas encore pu voir l'expo à Aix-en-Provence, mais c'est très très beau au Grand Palais, et Camille Morino en parlait aussi, c'est-à-dire vraiment d'abord la fusion à deux et même à trois, parce que Punto Sultan, à la fois comme curateur, comme directeur de musée, comme critique, a encouragé, a soutenu ce travail, enfin vraiment cette fusion entre Niki Saint-Phalle et Ting Li. Tang Li amène quelque chose qui est proche des machines célibataires. Elle arrive, on pense vraiment à Deleuze et Guattari, à l'Anti-Oedipe, et elle arrive avec non pas des corps sans organes, encore que le corps dont vous parliez, le « on », elle, comme ça, est un corps qui est viscéré, qui est dévidé, mais c'est un corps où il y a presque trop d'organes, où les organes sortent. Et ce qui est dégueulé presque par le corps, par les viscères, c'est la consommation. Et ça m'a complètement ébloui, parce que j'avais plus... On garde après des stéréotypes, même si on voit notre vie de critique à lutter contre. Notre mémoire, elle n'est pas meilleure que les autres. Au final, je retenais le rond, le rond et la couleur. Et là, j'ai entendu à nouveau au Grand Palais la rage, la colère. Mais une colère, effectivement, Camille Morino le disait, contemporaine. Une colère de consommation, une colère de cause politique. Et j'ai vu, là, sur une étendue absolument fascinante, la nécessité d'une mythologie. Et c'est ça qui est très beau, on en reparlera après quand on parlera du film. Et c'était Gwenaëlle Aubry, dans le très bel essai qu'elle avait consacré à Niki de Saint-Phalle il y a quelques années, Saint-Phalle monté en enfance, qui disait justement, pour revenir, et ça redonne la main à ce que disait Camille Morino tout à l'heure, c'est-à-dire que pour sortir de cette position de victime, qui aurait été catastrophique pour elle, il faut en passer par le mythe. Et c'est ce qui est magnifique, c'est comment elle tourne et comment elle devient artiste en tournant justement ce qui aurait pu être juste un trauma, une blessure, en puissance, en repassant par le mythe, en inventant sa propre mythologie. Et c'est une mythologie de décharge. C'est ça qui est sublime. Il y a la décharge dans les tirs, mais il y a la décharge au sens poubelle. On disait que Godard adorait Daddy comme film. C'est la même année à peu près que l'année où il fait Weekend, un film trouvé à la décharge. C'est vraiment tout ce qui est rejeté, littéralement vomi par la société de consommation. Et elle en fait quelque chose d'incroyable, parce que c'est Bosch, c'est Gaudi, plus effectivement vos poubelles, nos poubelles.
Céline Salette, en une minute avant la fin de cette première partie, comment est-ce que vous avez travaillé cette dualité dont on parlait chez Niki de Saint-Phalle, entre une grande lumière, la joie à la couleur et ce côté trash à tous les sens du terme?
Ouais, je voulais pas faire un film trash, moi.
Mais il n'est pas trash.
Hein. Ouais, dans l'histoire, il y a tellement de trous noirs que c'est facile de faire un truc un peu dégueulasse, je pense. Mais moi, je voulais absolument pas. Je voulais que ma fille de 13 ans puisse voir le film. Je voulais pas faire Disney non plus. Mais je voulais qu'elle puisse parler à qui elle était à ce moment-là, c'est-à-dire aux jeunes femmes, quoi. Et puis sans la salir trop, quoi. Sans la salir même. Ça commence à la première image du film, c'est ça, hein, là, le visage coupé en deux, parce qu'il y a un projecteur qui éclate quand elle est mannequin. Le duel, il est tout le temps dans son œuvre. Elle a fait des dessins, elle, où elle était coupée en deux. Il y a ce qui est su et ce qui est caché, comme dans l'inceste, hein, le secret et le prétendu, le faux, et puis il y a le destin et les choix, et puis il y a le magique et le réel, le trivial. En fait, elle est parcourue par tout ça, le grotesque et le sublime. En fait, elle est une immense artiste, parce qu'elle embrasse tout le réel, quoi.
Ce sera
tout
le réel
avec le rêve en plus.
Ce sera le mot de la fin de cette première partie. Merci à tous les trois, et on se retrouve tout de suite. « Et me revoici dans ces midis de culture consacrés à l'artiste Niki de Saint-Phalle en compagnie de la réalisatrice du film Niki, Céline Salette, de Camille Morino, conservatrice du patrimoine, spécialiste des artistes femmes et du journaliste et critique de cinéma Philippe Azoury. Nous avons pu explorer ensemble plusieurs facettes de Niki de Saint-Phalle, sa vie et son œuvre, et j'aimerais qu'on se penche sur un aspect particulier de son travail, plus méconnu, le film qu'elle réalise en 1976, Un rêve plus long que la nuit, dans lequel elle fait jouer sa fille Laura. Elle avait déjà co-réalisé avec Peter Whitehead le film Daddy en 1973. Niki de Saint-Phalle présentait son film Un rêve plus long que la nuit de la manière suivante, je cite, « Il était une fois une petite fille qui s'appelait Camélia, elle avait 8 ans, elle vivait comme toutes les petites filles avec ses parents. » Elle avait les peines, les chagrins, les amours. Elle aimait ses deux grands frères et puis un jour son grand frère est mort. Il portait toujours ce frère une bague, un gros faux diamant. Aux funérailles, Camélia vole cette bague. C'est le commencement d'un pacte, c'est le commencement du songe, c'est le commencement d'un rapport. Autre, l'ambiance de ce film est très singulière, on s'y plonge.
Fais un vœu et je te le réaliserai.
Je peux choisir n'importe quoi ?
Choisis ce que tu veux.
J'aimerais devenir une grande personne.
Alors, je vais t'emmener dans le monde des grandes personnes. Tu y trouveras 7 portes à ouvrir. Et à l'intérieur d'une de ces portes, je te transformerai en une très belle jeune fille. Réfléchis bien, Camélia. Dès que tu seras une grande personne, tu ne pourras plus jamais redevenir un enfant.
Je veux devenir une grande personne.
Je t'aurais prévenu, mais sache que dans ce monde des grandes personnes, il y a un trésor, si tu sais le reconnaître.
Un trésor ? Je viens.
Camille Morino, qu'est-ce que ce film nous dit de l'imaginaire de Niki de Saint-Phalle ?
C'est un imaginaire très, très fort où l'homme et la femme, dans sa version à elle, sont présents de manière, je dirais, caricaturale, en tout cas pour l'homme. Il s'agit d'un film initiatique où une jeune fille devient une femme et elle le devient en traversant plusieurs étapes, comme dans tous les films initiatiques. Et évidemment, dans ces étapes, il y a la rencontre obligatoire avec l'homme, qui est d'ailleurs incarné par Jean Tinguely, un Jean Tinguely un peu clownesque qui porte un sexe, un phallus énorme qui va finir par exploser. Donc on voit bien que Niki de Saint-Phalle se positionne sur ce rapport entre les hommes et les femmes avec un film très avant-gardiste, assez féministe, où la femme finalement s'en sort, devient cette grande personne, étant sauvée entre guillemets par des femmes dans une sorte de bordel fantastique où il y a des hommes d'ailleurs qui sont proposés à d'autres femmes et ce sont des hommes lézards qui grouillent au sol. Donc c'est un film très très emblématique pour moi du mouvement féministe, alors même que Niki de Saint-Phalle ne se réclame pas du féminisme, mais qu'elle le représente, qu'elle l'incarne dans ses œuvres et dans ses films.
Philippe Azoury, je m'adresse aux critiques de cinéma que vous êtes. Qu'avez-vous pensé du film de Niki de Saint-Phalle, Un rêve plus long que la nuit ?
C'est un film incroyablement singulier. Tous les films le sont a priori, mais celui-ci l'est quand même particulièrement. C'est deux films d'ailleurs, parce qu'il y a, il y a celui-ci, donc Un rêve plus long que la nuit, qui s'est longtemps appelé d'ailleurs Camélia et le dragon. Ça a longtemps été le titre travail, qui est sorti en 76. Et un peu auparavant, qui a été monté en 73-74, mais je pense qu'il doit être réalisé un an ou deux ans plus tôt, il y avait Daddy, qu'elle avait réalisé, comme vous le disiez, avec Peter Whitehead. D'ailleurs, celui-ci aussi, Un rêve plus long que la nuit, Peter Whitehead est chef opérateur. Whitehead, c'est quelqu'un qui, c'est un Anglais, il a été très très proche des Pink Floyd, du premier Pink Floyd, du Pink Floyd période Syd Barrett, en 66-67 à Londres. Puis il a fait le reste de sa carrière, je sais pas s'il, je crois que le mot, il aimerait pas beaucoup ça, j'avais rencontré une vingtaine d'années. C'est pas quelqu'un qui pense en carrière, c'est quelqu'un qui pense en essai, en flash, d'une certaine manière, Whitehead. Et effectivement, c'est ce qui l'a amené à travailler. Je pense qu'il y a une histoire entre deux également, on l'a dit, par deux fois avec Niki de Saint-Phalle. Ça crée un film qui est incroyablement, enfin, son cinéma, son cinéma. Mais quand même, dans ces deux films, il y a un langage qui est, comme chaque fois, j'ai l'impression qu'un artiste s'empare du cinéma, en dehors de tout arc narratif, réaliste, il y a quelque chose qui est complètement détaché de ça, et ça crée un langage qui est purement obsessionnel, qui est purement fait à partir de ce qui fait mythe ou de ce qui fait signe. Un arbitraire total des signes qui fait que les films ne ressemblent qu'à eux-mêmes, ils ne ressemblent même pas, ils ne s'inscrivent pas dans une histoire de cinéma. Ils s'inscrivent à l'intérieur d'une œuvre qui est plus large. Ce film-là a été tourné à Milly-la-Forêt, en partie parce que Niki Saint-Phalle y avait installé également énormément de ses sculptures monumentales, mais Milly-la-Forêt, c'est aussi Jean Cocteau. Et on voit qu'en fait, ce que Cocteau avait déjà ouvert dès le Sang d'un poète en 1930-31, c'est-à-dire ce langage cinématographique qui n'appartient plus du tout au cinéaste, mais qui d'un coup est récupéré, mais pas récupéré, qui est parlé différemment, comme on parlerait une autre langue, par les artistes, ça crée ça. Elle n'est pas la seule à ce moment-là, Marcel Reiss fait des films, Monori a fait des petits films, Boltanski aussi, mais elle fait quand même deux longs métrages qui sont des autoportraits, mais plus grands qu'elle, enfin, et c'est ce qu'elle cherche à faire, hein. Je veux dire, c'est pas que ça la dépasse, elle cherche à être dépassée.
Et elle ouvre, Niki de Saint-Phalle, avec le cinéma, une autre dimension aussi dans sa carrière, elle en a parlé en 1977, un an après la sortie d'Un rêve plus long que la nuit.
Je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour faire du cinéma. Malheureusement, je crois qu'après le premier film, ça devient une drogue. C'est quand même très passionnant, parce que ça offre des possibilités qu'on croit au début sont illimitées, et après, on s'aperçoit qu'on est dans ce sacré rectangle de la peinture, qu'on est coincé de nouveau encore une fois, on pense qu'on a échappé à cause du mouvement, des possibilités du son et toutes ces autres ouvertures qu'il y a dans le cinéma, eh bien, on pense qu'enfin, on arrive à quelque chose de nouveau. Et là, on est devant ce rectangle. Le prochain film sera essayer de combattre ce rectangle. Mais ça, c'est pas la raison pour laquelle je fais du cinéma. Je fais du cinéma parce que c'était une nécessité. Et c'était, en somme, ça remplit, au lieu de faire une psychanalyse, et après de rentrer chez moi et tranquillement faire du tricot, eh bien j'emmerde des gens en faisant du cinéma. Voilà la vraie raison. C'était une nécessité. Et ce qu'il y avait dans ce film, j'avais un besoin tellement impératif de le faire que j'ai embêté tout mon entourage. Je les ai galvanisés, je les ai enthousiasmés jusqu'à ce qu'ils sont venus avec moi et m'ont aidé à le faire.
Céline Salette, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous percevez dans ce désir que vous devez très bien comprendre de Niki de Saint-Phalle de faire du cinéma et d'entrer dans cette dimension d'affirmation de soi?
Oui, je trouve ça extraordinaire qu'elle explore évidemment cette dimension de son art. Parce qu'il y a aussi le lien, la troupe en fait, c'est l'art collectif. C'est aussi ce qu'elle expérimente avec les nouveaux réalistes. Il y a une espèce de bande. Là, il y a une espèce de partage, de commun, de l'exaltation. Et je pense que c'était une femme hyper exaltée, tellement vivante, vivante à un niveau très 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 puissant. Et donc en fait. Moi, ce que j'entends là dans cette interview, c'est le partage avec sa fille, y compris sa famille, avec sa famille de cœur, de l'expérience artistique, de la poésie. Et au fond, elle a vécu sa vie d'artiste et de poète comme ça, par l'énergie.
Après le premier film, ça devient une drogue, c'est ce que dit Niki de Saint-Phalle dans cet extrait qu'on a pu entendre. Camille Morino, pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas fait plus ensuite? Parce qu'elle parle du prochain, elle a l'air de s'inscrire dans une dynamique de réalisatrice, et puis elle s'interrompt. Est-ce que vous avez une explication ou une piste de réflexion sur finalement cet arrêt du cinéma?
Là, on a deux professionnels, Céline et Philippe, qui en parlent bien. Le cinéma, c'est quand même un art collectif avec des budgets très importants. Quand Niki Saint-Phalle se lance d'abord dans Dadi au début des années 70, puis dans Un rêve plus long que la nuit, c'est un sacrifice énorme pour elle. Il faut qu'elle trouve l'argent, il faut qu'elle trouve les acteurs, les décors, elle doit tout produire elle-même. Et je pense que ces films trouvent un peu leur public, mais enfin, c'est pas énorme non plus. Et Niki Saint-Phalle doit financer sa carrière et sa vie. C'est aussi le moment où elle fait beaucoup d'art public. Elle est au Jardin des Tarots, près de Rome, pour construire cet immense projet public qu'elle finance aussi elle-même. Je pense tout simplement que c'est des raisons de moyens. Et malgré tout l'effort collectif déployé par ses proches, on voit donc Tinguely, on voit sa fille, on voit ses amis et certains de ses collectionneurs qui jouent dans ses films, je pense que c'est tout simplement difficile de reproduire un autre film. C'est mon explication, malgré l'énergie qu'elle déploie, malgré cet enthousiasme qu'il apporte et qu'on retrouve dans le film de Céline, et malgré le fait que, comme le soulignait Philippe, beaucoup d'artistes de son temps se lancent dans le cinéma, bah c'est en fait difficile de produire des films sans producteur, je pense.
Philippe Azoury, oui, vous ne pouvez pas hocher la tête.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Camille, d'autant plus que historiquement, enfin, je veux dire, ce qui a été l'avènement du cinéma underground avec un cinéma de mécénat et d'ailleurs l'époux de sa fille, de Laura, Laurent Condomina, faisait lui-même partie des Zanzibars, qui était un cinéma qui n'a pu exister que par la grâce d'une mécène, en l'occurrence. Et là, c'est toujours le même mécène pour les films de Niki de Saint-Phalle. Ce mouvement-là de mécénat comme ça très libre s'est arrêté vers la fin des années 70, et puis le cinéma est quelque chose de très très vampirique, qui est épuisant. Et je pense que d'une certaine manière ce film Un rêve plus long que la nuit et Le jardin des tarots se donnent la main, et que le troisième film c'est peut-être Le jardin des tarots qu'elle devait commencer à préparer à ce moment-là en 76, puisqu'il est de 79. Ce que je vois, moi, ce qu'elle disait, vaut mieux faire ça qu'une psychanalyse. Ce qui est très drôle, parce qu'on sait que Jacques Lacan a adoré Daddy, le précédent film. Je ne sais pas s'il a vu un rêve plus long que la nuit. Mais on voit un film qui est à la fois en dehors des règles du bon goût, du mauvais goût. On est plutôt du côté de, entre les Power Rangers et Buñuel. Donc il y a quand même un écart gigantesque. Et au milieu de ça, on voit un film terrifié, rond et terrifié, c'est ça qui est terrifiant, et beau. Voilà, le film terrifié d'une adulte qui ne peut plus redevenir une petite fille, quelque chose l'a exclu du monde de l'enfance, et pourtant c'est ce monde-là qui revient. Et il faut créer des portes, il faut créer des passages, et cette porte du mystère, et elle arrive à ce cheminement qui ne ressemble à aucun autre, qui fait que c'est un film incroyable, notamment d'un point de vue, elle parlait de la bande-son, mais sur ce qu'elle crée en termes de bande-son, c'est assez fabuleux.
Et on sent aussi, pour conclure cet échange, vous parliez de Jean Cocteau tout à l'heure. Jean Cocteau, on voit dans le film de Céline Salette, dans Niki, au début, on voit Niki de Saint-Phalle incarner le sphinx dans La machine infernale. Et on sent effectivement aussi l'influence de cet univers-là de Jean Cocteau.
Au moins sur le geste, liberté, quoi, la liberté de s'autoriser à faire ça.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour évoquer Niki de Saint-Phalle, Céline Salette, Camille Morino, Philippe Azoury. On peut voir le film Niki en VOD et je le recommande très chaleureusement de Céline Salette. On peut aussi aller voir les deux expositions consacrées à Niki de Saint-Phalle au Grand Palais et à Aix-en-Provence. On va se quitter sur Screw Blast Blow du groupe Burning Lady. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejeune, Nina Gandara et Inès Bouffartig-Sébastien. À la réalisation aujourd'hui, Léa Racine, et à la technique, Ruben Carmadian. Je remercie infiniment toute l'équipe de ces midis de culture d'été. J'ai été vraiment très heureuse d'être avec vous pour ce mois d'août. Dès lundi, vous retrouverez Marie Laborie et toute son équipe pour la rentrée des midis de culture.